RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Nils.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu ?
Impeccablement bien.
C'est super d'être accueilli ici au sein de l'école hôtelière. Nils Toze, donc tu es enseignant ici à l'école hôtelière, hein, c'est ça ?
Tout à fait, depuis 6 ans maintenant.
Est-ce qu'on peut présenter déjà cet établissement dans lequel tu officies ?
Donc ici nous sommes à l'école de hôtellerie et de tourisme de Luxembourg, donc à Diekirch, donc un établissement très historique dans l'éducation de la gastronomie luxembourgeoise. Et donc j'ai officié comme enseignant en service et je m'occupe principalement également des cours de bar et de boissons en général.
Alors Nils, tu es bien connu sur la place du Luxembourg, hein, puisque toi tu es allemand, hein, c'est ça, hein,
je
c'est
suis
bien ça
irlando-allemand.
Irlando-allemand, oui. Et tu officies donc ici au Luxembourg depuis quelques années.
Oui.
D'où est parti cet amour du vin ?
J'avais la chance qu'un de mes oncles était un grand passionné en fait du vin et de la gastronomie évidemment, mais qui m'a quelque part donné la fibre du vin et qui m'avait expliqué les différents terroirs. Il m'avait rencontré énormément des anecdotes, des histoires de vécu dans le vignoble autour de l'Europe. Et j'ai trouvé ça passionnant, fascinant. Je me suis formé. J'ai travaillé au bar et j'ai remarqué que finalement, le travail de barman, c'est quelque chose qu'un vigneron doit faire avec un seul ingrédient. Donc, c'est quelque part, c'est génial. Et donc, ça m'avait vraiment intrigué d'apprendre plus.
Ce métier, tu l'as appris de manière un peu classique, c'est-à-dire par le biais d'une école hôtelière ?
Tout à fait. En fait, je suis hôtelier par formation. Donc, j'ai fait mes formations d'hôtelier près d'Hambourg, dans une ville qui s'appelle Zeven, dans le nord de l'Allemagne. Donc, j'ai fait mes cours d'hôtelier là-bas. Une fois que j'avais terminé mes cours, j'ai recommencé à voyager. Je suis parti en Irlande et donc là, j'ai continué avec les formations après sur le vin. Au début avec le WSET, donc le Wine Spirit Trust de Londres. Et puis par la suite, j'ai cherché à prendre des vraies formations plus traditionnelles avec la mention complémentaire en France, donc à Dinard, en Bretagne, par la suite.
Tu es quelque part un globe-trotteur, hein, du service et du vin. Ce sont des choses que tu as voulu dès le départ, comme ça, voyager, ou ce sont simplement les occasions qui se sont présentées ?
Comme beaucoup de monde, hein, j'adore le voyage, j'adore la gastronomie. La meilleure chose, c'est de partager et les contacts avec les différentes personnes. Donc, on est vite attiré dans les différents pays. On s'intrigue sur des cultures, des tables différentes, des produits différents. Et donc, surtout dans les vins, on adore découvrir des terroirs. Donc, il est presque naturel qu'on se déplace et quelquefois, bah, on reste un peu plus longtemps. Quoi.
Alors justement, les gens qui travaillent dans ce métier en général sont plutôt reconnus comme pour accomplir des missions pas forcément très longues au sein des différentes entreprises. Ça a été ton cas également, régulièrement tu es passé d'une entreprise à l'autre pour voir d'autres choses, d'autres postes.
Je pense que surtout au début de carrière, les premières 5 à 10 ans sont très formateurs dans ce sens-là. Et il faut bouger pour prendre le maximum de l'expérience qu'on peut en avoir finalement et de voir les différents styles de gastronomie, styles de management aussi, et des produits disponibles dans les différentes régions. Et donc il est quand même un vrai avantage, je pense, dans une carrière si on a pris du temps de voyager de manière adéquate, quoi.
Est-ce que c'est compliqué au départ, la sommellerie ? Est-ce que c'est vraiment un métier qui s'apprend avec les années ? Est-ce que tu apprends encore ?
Je suis venu dans la sommellerie assez tard, j'ai envie de dire. J'avais déjà 22 ans. Au moment que j'ai commencé mes mentions complémentaires, en fait, c'était simplement que j'avais l'opinion et je les garde, qu'il faut quand même quelques années et une certaine maturité avant de vraiment pouvoir démarrer dans le vin avec un certain côté sérieux et avec une réflexion peut-être un peu plus large et pas uniquement voir le vin comme une boisson alcoolisée comme les autres. Je pense que le vin, il a des histoires qui sont beaucoup plus profondes que d'autres boissons. il faut un certain temps, je pense, de les comprendre. Après, évidemment, il y a des exceptions. Il y a des gens, des jeunes brillants qui accélèrent déjà à des âges plus jeunes que moi. Hein, mais voilà, pour moi, c'était une question de temps d'avoir cette réflexion.
Tu es également associé hein, dans le cadre d'un vignoble. Tu avais à cœur justement de pouvoir toi-même travailler ton propre vin. Parle-nous un petit peu de cette aventure.
Donc en fait, il y a quelques années, donc en 2019, mon ami Stefan Weber, en fait de Weber Brüder Wiltingen, m'avait demandé si ça ne m'intéressait pas de produire des vins avec lui. Et en fait, en première approche, non, j'avais pas forcément directement envie, mais plutôt pour la simple et bonne raison que je ne suis pas vigneron, je suis sommelier et donc c'est quand même des métiers quand même complètement différents et donc il me manque quand même certaines connaissances dans la technique et dans la production du vin que je ne veux donc pas nier. Donc, mais en fait Stéphane il était quand même assez insistant et puis on a reparlé du projet et donc on a produit nos propres cuvées ensemble, donc en fait où on a juste des où j'agis plutôt dans une manière de pas consultant mais palais supplémentaire. J'ai dans mes idées, mes préférences peut-être, mes opinions et plutôt mes visions sur le vin que d'autres choses. Donc Stéphane, il assure clairement la partie technique où je lui pose quelquefois des défis si on pourrait peut-être changer quelque chose dans la vinification ou amener des différentes manières à faire dans la vinif, mais c'est lui le technicien et...
Comment elle est alors cette cuvée? Quel cépage déjà et à quoi ça ressemble? À quoi on peut s'attendre?
Donc en fait, nous sommes donc à Wiltingen, dans la Saare allemande, donc une rivière de la Moselle. Donc c'est un terroir de schiste. Donc c'est des schistes très compacts, très pauvres en nutriments. Donc ça va vous donner des Riesling très ciselés, très minérales, très droits. Et donc c'est un vignoble assez pointu avec une vieille vigne qui a plus de 60 ans maintenant. Qui en vinifie d'une manière assez naturelle, donc sans levure rajoutée, très peu dosée au niveau de soufre, juste pour une petite protection. Et puis on laisse la nature faire la chose. Donc on est en conduite plutôt naturelle, biologique. Donc pas de produits futurs en éther dans la vigne. Et voilà.
En tant que passionné de vin, on va être amené à parler un petit peu de tes goûts hein, qui te sont propres, hein, justement peut-être ceux que tu as souhaité reproduire aussi au sein de ton vignoble.
Oui.
De manière assez large, quels sont vraiment tes terroirs préférés et pour quelles raisons?
Moi j'aime des vins avec une vraie droiture, j'aime bien des vins qui sont justement... pas forcément toujours trop souple, trop rond, trop parfait. J'aime bien quand il y a justement des coins.
Un peu clivant, quoi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Il faut que c'est une vraie matière vivante et animant, quoi. C'est ça que j'adore. Donc, j'adore des terroirs, surtout des climats assez frais, quand même. Donc, évidemment, j'adore nos climats ici à Luxembourg et puis en Allemagne, où on peut faire des vins justement très ciselés. Mais... aussi la Bourgogne, la Champagne, quelques grands terroirs de l'Italie, du Piémont ou en Espagne, toute la partie des Priorats, je trouve ça fascinant, quoi.
Quelles sont les particularités vraiment de ces vins avec ces cèpes qui poussent dans la roche? On va retrouver énormément de minéralité, c'est ça?
Donc justement, donc on va retrouver une partie, une minéralité supérieure, c'est surtout le schiste. Donc là aussi, il y a un lien hein, dans mes goûts personnels. Dans le Lazare, on a ces schistes, mais on les retrouve également justement dans le Priorat ou aussi dans le Porto où on a ces terroirs géniaux. Pour des vins de très grands gardes et très grandes complexités. Et donc ça va nous donner un côté ciselé, minéral et d'une certaine intensité presque saline. Donc c'est ça que j'adore. Et le côté un peu montagneux, en fait, va nous apporter la fraîcheur. Moi, j'ai une préférence claire, personnelle, pour des vins qui sont plus faibles en alcool. Ils me font une vivacité qui va nous animer. Et je trouve que les vins... qui sont peut-être trop riches en alcool sont tendanciellement un peu fatigants. Donc je préfère quand même des vins de table qui on peut continuer à boire pendant toute la longueur du repas.
Nils Stoz, tu es très impliqué également dans la vie du vin luxembourgeois. Hein. J'ai eu l'occasion de te rencontrer notamment lors de dégustations, Golemio ou autres. Tu fais également partie de l'UDSL, donc oui. L'Union des sommeliers luxembourgeois. Oui. Est-ce que déjà tu peux me parler de cet amour pour le vin luxembourgeois et ce qu'il te procure ?
Je pense que la meilleure anecdote là-dessus, c'est très simple. Quand je suis arrivé au Luxembourg en 2013, j'avais aucune connaissance de vin luxembourgeois. J'étais un peu critique, j'étais un peu sceptique par rapport à la qualité des vins. Et puis, j'avais une bouteille avec une étiquette assez rigolote, mais rustique, dans la cave du restaurant où j'ai travaillé. Et en fait, un client avait bien commandé cette bouteille que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les vignerons, même les cépages, mais était pas très connu, donc c'était les Muscadot Tonnel à l'époque. Je ne travaillais pas avec cette cépage avant, et en fait en débouchant j'ai trouvé que c'était un vin magique. Il avait un parfum exceptionnel, et même si c'est le Muscat, évidemment c'est un cépage quand même très très simple et aromatique, mais ces vins, la précision des arômes était juste magique, et je me suis dit, il faut vraiment que je me prenne du temps de voyager dans la Moselle. Et donc c'était un vin de Charles Dacker, en fait, qui fait des choses magnifiques à Remerschen. Et le même jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler des différents domaines pour prendre un rendez-vous, pour me plonger dedans. C'était ma première semaine à Luxembourg, donc il fallait vraiment que je me mette tout de suite en bain. Et donc j'ai appelé des domaines comme Alidur ou comme Zinnhoffmann, qui était c'était des premières domaines que j'ai visité en fait à Luxembourg pour donc découvrir les différents terroirs et le savoir-faire luxembourgeois dans la production du vin. Et en fait c'est vrai qu'on a des super vins ici, quoi.
En tant que sommelier, on prend du plaisir comme ça à rencontrer le vigneron. Tu as l'occasion de temps en temps d'en rencontrer, même d'aller dans les champs avec eux?
C'est très important pour nous, je trouve. Côté professionnel des sommeliers, c'est même essentiel de les faire, de se prendre le temps, parce que dans le service du vin ou la connaissance du vin, c'est quand même vraiment aussi transmettre les histoires des individus qui ont produit ces vins. Donc on est là, on fait du storytelling tous les jours, et donc il nous faut une connaissance technique certaine sur les millésimes, sur les appellations, sur la production du vin, oui, mais il nous faut aussi une connaissance plus personnel des différents domaines et de pouvoir comprendre les méthodes de production et les expressions en fait des différents vins. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et on doit absolument se prendre ce temps.
Il y a une volonté de la part du Luxembourg de faire une production qui est de plus en plus confidentielle, qui est de plus en plus indépendante. On le voit à travers des cuvées comme la Charta ou autres. Toi, tu perçois cette amélioration dans le verre chaque année, où tu te dis, tiens, là, on est vraiment en train de côtoyer de belles choses?
En fait, quelque chose que j'adore et où je trouve qu'on a fait des progrès énormes, c'est que, en fait, finalement, on a un point où il y a peut-être un peu plus de confiance, d'oser, de faire des choses un peu différentes, et que les différents domaines, producteurs et vignerons, peuvent aller suivre leurs propres idées. Et on a moins cette obligation de tomber dans un moule, et en fait, il y a plus de l'espace pour les expressions individuelles, uniques, des vins. Et c'est ça que je trouve génial. On les voit beaucoup avec les changements maintenant des générations dans les différents domaines, qu'il y a une vraie volonté d'aller un peu vers l'avant, parce que une chose est sûre, en fait, on sous-évalue régulièrement, fréquemment, les vins luxembourgeois. Et en fait, même au niveau des passages en caisse, les vins luxembourgeois sont quand même des vins, par rapport au travail qui est fourni, sont des vins qu'ils ont quand même vendus à des prix très humbles.
Oui, puisqu'on a aujourd'hui, même pour prendre des vins qui sont issus de coopératives, on est sur des cépages qui sont de très bonne qualité, des vins qui sont très bien travaillés, parfois même en dessous de 5 euros, ce qui est introuvable quasiment. dans d'autres...
Bah justement, je pense que si on parle de vin en dessous de 5 euros, on parle surtout des trois cépages, donc l'Elpling, le Rivarna et l'Auxerrois aussi, qu'on peut souvent mettre dedans, que malheureusement, on voit qu'il y a des grands plans d'arrachage de ces anciens cépages. Il ne faut pas oublier que l'Elpling, c'est un des... C'est le plus vieux cépage mosellan qui existe. Hein. Donc, il est ici dans le terroir de plus de 1000 ans. Et donc, ça sera tellement dommage en fait de perdre ce vin. Et il y a certains vignerons comme Abidur ou Kaya, entre autres, qui sont en train de remettre un peu les cépages, les anciens cépages au goût d'aujourd'hui et de réfléchir d'une autre manière. Et c'est ça qui est chouette aussi de voir cette. Cette manière à préserver en fait l'histoire et aussi à quelque part des cépages emblématiques en fait de notre terroir.
Quoi. Ouais, et de revisiter aussi d'une autre manière ces cépages. Nils, on va refermer tout doucement la page de ce podcast La Route des Vins du Luxembourg, mais avant cela, je vais te demander, allez, quels sont les trois coups de cœur que tu peux nous proposer, toi, en tant que sommelier, peut-être des pépites que tu aurais pu découvrir ou tout simplement des belles surprises comme ça dont tu peux faire part à nos auditeurs.
À Luxembourg, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, j'adore plein de domaines ici. Si c'est le domaine Claude Rocher, pour son côté peut-être classique, mais travailler dans une finesse extraordinaire, je trouve ça génial. Ou les vins d'Abidur, évidemment, avec les châteaux de Poquet, sur la générosité et la petite grande folie de chaque cuvée. Donc, il y a beaucoup de choses. Henri Rupert aussi, des vins... très délicat et fin, c'est des cépages bourguignons, mais j'aime bien découvrir les différents terroirs. Donc pourquoi pas partir un peu en Angleterre. En Angleterre, nous avons un climat, en fait, c'est un des grands climats de demain, en fait. Hein. On retrouve les sols kimmoridgiennes comme sur Chablis, et dans la région de Kent, là, vous avez des terroirs plutôt calcaires à fossiles des huîtres. Il y a une très jolie production des chardonnays, mais aussi des pinots noirs. Et donc, il y a un pinot noir que personnellement, j'ai vraiment aimé. C'est le pinot noir chez Gooseburn, donc à Kent, sur le terroir Bootle. Et c'est vraiment quelque chose de très chouette. Et je les recommande très fréquemment à des amateurs de vin. Parce que, en fait, ces vins me rappellent vraiment des vins bourguignons d'une certaine époque. Donc, on peut retrouver des pinots noirs vraiment sur la dentelle, avec une légèreté et une précision des arômes extraordinaires. Donc, c'est vraiment comme des vins il y a, en Bourgogne il y a à peu près 20 ans par rapport à la situation climatique. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est vraiment à faire. Après, pour les autres vins, on avait parlé des Priorats tout à l'heure. Un vin que j'adore, c'est les Priorats de chez René Barbier avec le vignoble de Onivert. C'est génial, c'est les fils des Clos Mogador, donc un des pionniers de l'appellation de Priorat. Et là, il faut aller prendre plaisir avec des vieux cèpes de Grenache. C'est très, très joli, qu'est-ce qu'ils font. D'avoir quelque chose un peu en contraste. Et en troisième, pourquoi pas aller en Italie, une région que j'adore aussi. J'adore passer mes vacances là-bas. C'est une région simple, plein de bons produits. En Emilia-Romagna, et aller chez Madame Chiara Condello, près de Ravenna. Elle produit des Sangiovese et des finesses. Ils font face à la mer Adriatique. Et elle fait vraiment des super Sangiovese, donc très fin et frais à la fois. C'est génial, il faut aller.
En tout cas, ça nous a permis de faire un petit tour d'Europe, de découvrir des vins anglais. C'est la première fois qu'on parle d'un vin anglais sur cette route des vins du Luxembourg. Merci beaucoup, Nils Tose, pour tous ces bons conseils. Je le rappelle, tu es donc enseignant ici, professeur de salle et de service à l'école d'hôtellerie de Diekirch au Luxembourg. À très bientôt, Nils.
Merci beaucoup, Mathieu.
Au revoir.
Au revoir.
La route des vins du Luxembourg.